Nous avons présenté cette soirée au Seigneur, cette soirée de Shabbat, en Dieu. Ce soir, nous nous présentons de nouveau tous devant toi, parce que nous attendons de toi, Yeshua, que tu nous donnes le Verbe, que tu nous donnes l'intelligence, que ton esprit repose sur nous. Mon Dieu, que mes paroles soient tes paroles, que ton esprit m'inonde, qu'il me remplisse, qu'il soit comme une source d'eau vive pour cette terre féconde que tu as labouré. Mon Dieu, scelle maintenant ta parole afin qu'elle puisse croître dans les cœurs, qu'elle puisse donner à ceux qui ont faim la nourriture spirituelle de leur temps, afin qu'ils soient prêts, qu'ils soient forts dans ces jours qui sont les derniers, qui sont les tiens, mon Dieu. Dans le nom de Yeshua, amen. On va poursuivre le travail que j'avais commencé sur le Shabbat, ce que représente Shabbat. On avait déjà étudié le sujet une première fois, on avait vu ça ensemble, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus qu'un simple jour de repos derrière le Shabbat. Le Shabbat, ça a une signification bien plus profonde, bien plus importante que celle que, a priori, on pourrait lui prêter. Pour les chrétiens, c'est surtout une journée de repos, une journée où on ne fait rien, une journée que le Seigneur nous offre pour nous reposer des tâches qu'on a fait toute la semaine. S'arrêter à ça, c'est passer à côté de tout. C'est passer à côté de la volonté de Dieu. Pour les juifs, il en va tout autrement. Shabbat a une signification beaucoup plus profonde, et c'est celle-là qu'on va explorer. On va voir un peu ce que nous enseigne la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, ce que nous enseigne la Torah, ce que nous enseigne l'Éternel, voir aussi le Verbe et le propos de Jésus, et nous rendre compte que de l'Ancien au Nouveau, en fait, il y a un seul esprit, il y a une seule volonté, il y a une seule manifestation du même Dieu. Je résume rapidement ce qu'on avait vu la première fois, pour que vous l'ayez en mémoire. Dans Romains 10, 4, on peut lire ça, l'apôtre Paul dit ceci, « La finalité de la Torah, c'est le Messie, pour la justification de tous ceux qui adhèrent. » Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On se rend compte que l'apôtre Paul résume un petit peu la loi dans la personne de Jésus. La Torah, ça c'est les cinq livres de Moïse, ce qu'on appelle aussi la loi. En fait, la loi nous amène à Christ, la loi nous enseigne ce qu'est Christ, la signification de sa vie, de son sacrifice et de la volonté de Dieu. Jésus nous est l'expression de cette loi. Passer à côté de ça, c'est passer à côté de tout. Je rappelle qu'un des tout premiers messages, ou même le tout premier message que Jésus a prononcé devant les foules, il l'avait fait à Capharnaüm, c'est sur la montagne de la consolation. Donc, quand il est monté, dans le jardin des béatitudes, le Seigneur s'est adressé à la foule et leur a lancé un grand message d'espoir. Alors, je vous rappelle juste ce que ça veut dire, hein, ce mot Kfar-Nahum. Le mot montagne en hébreu se dit Har, le mot enceinte, grossesse se dit Hara, et le mot parent se dit Horim. Yeshua sur cette montagne va accoucher de la Torah afin que toute la foule la reçoive comme des parents qui viennent de recevoir un fils. Le fils de l'homme, image de la loi fait homme. Déjà un premier message dans le simple fait que Jésus monte sur la montagne et qu'il s'identifie avec la parole de Dieu. Ça, nous l'avons vu la dernière fois. Et nous allons explorer ça de manière un peu plus profonde. Nous allons aller beaucoup plus loin, pénétrer la parole de Dieu, rentrer dans la loi, voir ce qu'est la loi, et en extirper le message, en extirper la substance. Pour comprendre la profondeur de tout ça, on va commencer par les évangiles, parce que c'est ce qui est le plus abordable, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Et petit à petit, on va aller vers la Torah, le décalogue, voir la substance profonde de ce qu'il y a dans le décalogue, et essayer d'en tirer le message de l'Éternel, et comprendre quelle est sa volonté. Alors, comment est-ce que l'évangéliste Marc voyait les choses de son temps? Le titre que je mettrai là-dessus, c'est « Marc ou le Shabbat des temps nouveaux ». Dès le début de l'évangile de Marc, Jésus annonce ses intentions. « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Marc 1, 15. Dans la foulée, après avoir appelé les quatre premiers disciples, Jésus commence sa prédication dans la synagogue de Capernaum. le jour du Shabbat. Curieusement, son enseignement consiste en une guérison, ou plutôt un exorcisme. Jésus libère un homme possédé par un esprit impur, ce qui suscite l'admiration. Premier miracle de Jésus, il chasse les démons. Déjà, il s'affirme par son autorité. Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Après l'office, il se rend dans la maison de Pierre, où il guérit sa belle-mère qui avait la fièvre. Et elle les servait, malgré sa fièvre. Dès le départ, l'évangile situe la mission de Jésus dans le cadre du Shabbat, avec ses deux rites principaux. L'enseignement de Jésus, l'enseignement à la synagogue, et le repas de fête à la maison. Mais l'évangile insiste surtout sur les actes de puissance de Jésus. Un homme est libéré de l'esprit impur et une femme est guérie de sa maladie. C'est l'humanité, homme et femme. C'est important de retenir ça. C'est-à-dire Jésus, quand il commence sa mission, dans son tout premier geste, dans les toutes premières choses qu'il fait, en fait, on se rend compte qu'il embrasse déjà la parole de Dieu. Et on va voir plus tard comment. Il libère un homme d'un esprit impur et il guérit une femme. C'est déjà l'image de l'humanité. C'est déjà le Ish et le Isha qu'on retrouve dans la Genèse. C'est l'homme et la femme dans la création. Et déjà, Jésus vient et s'impose déjà comme étant le Dieu vivant. Parce que dans son message, en fait, il ne s'adresse pas uniquement à un homme et à une femme, mais il s'adresse à l'humanité entière. L'homme et la femme, c'est l'image d'une humanité qui est restaurée dans sa capacité de louer le Seigneur. Le jour du Shabbat, Jésus sauve, guérit, libère. Jésus ne fait pas appel à la foi de ses interlocuteurs, mais en agissant de sa propre initiative, il montre l'urgence des temps nouveaux. Le plus surprenant est par la suite. Le soir venu, après le coucher du soleil, c'est-à-dire après le Shabbat, quand le Shabbat est terminé, qui est pour nous aujourd'hui le dimanche, on amène à Jésus des démoniaques et des malades, et il les guérit tous. Jésus continue de faire les mêmes gestes de salut que lors du Shabbat inaugural. Pour lui, il n'y a plus de frontière entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Il n'y a plus de Havdalah, l'office qui termine le Shabbat, le samedi soir au coucher du soleil, et qui marque le passage du temps sacré du Shabbat au temps profane des jours de la semaine. Avec Jésus, c'est tous les jours Shabbat. Finalement, le débat entre Jésus et les pharisiens va se déplacer sur la personne de Jésus. La question ne porte pas tant sur ce que la loi autorise ou interdit, mais sur l'autorité de Jésus qui permet de donner au Shabbat un sens nouveau. Parce que déjà une polémique s'était instaurée entre les religieux, ceux qui interprétaient la parole de Dieu, et Jésus. Parce que les religieux disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire le Shabbat, tu te rends compte, tu guéris, c'était assimilé pour eux déjà à enfreindre la loi. Et Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui est plus facile, hein, de guérir un malade, ou bien de suivre votre loi et puis d'agir comme vous le faites? Ben moi je fais la démonstration que moi, je suis maître du Shabbat. Et la preuve, je peux guérir le jour du Shabbat. Jésus s'impose déjà sur les religieux, s'impose déjà par rapport à tous ces savants et à toutes ces personnes extrêmement instruites qui étaient autour de lui et qui étaient scandalisées par ce qu'il faisait le jour du Shabbat. Parce que pour eux, Shabbat, c'était faire le strict minimum. Or, justement, pendant le jour du Shabbat, c'est là que Jésus était le plus actif. C'est là qu'il bougeait le plus, c'est là qu'il se déplaçait, c'est là que les foules venaient vers lui, c'est là qu'il guérissait des malades. Ça allait un peu à contresens de tout ce qu'eux, ils faisaient. Quand eux, le jour du Shabbat, c'était calme plat, on en faisait le minimum, et quand Jésus, il arrive, eh ben ça, le monde entre en ébullition. Et ça les choquait. Ça, c'est quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'on leur avait appris, à l'encontre de tout ce qu'ils avaient compris de la parole de Dieu. Et Jésus, il va complètement à contresens par rapport à toutes ses croyances. La question à l'époque ne porte pas tant sur ce que la loi autorise ou interdit, mais l'autorité de Jésus qui se permet de donner au Shabbat un sens nouveau. Le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Ça, on peut le lire dans Marc 2, 27-28. En manifestant le primat des actes du salut sur tous les autres comportements demandés par la loi, Jésus indique que que le Shabbat des derniers temps est arrivé dans la personne, dans sa personne elle-même. Du même coup, le temps présent change de signification. Il faut maintenant ouvrir son cœur à cette réalité nouvelle du royaume à l'œuvre dans sa personne et croire en lui. C'est pourquoi, dans les autres guérisons, après le premier Shabbat, Jésus pose la question de la foi. Et oui, dans les premiers miracles qu'il a faits, il ne demandait pas aux personnes de croire en lui. Il s'est imposé. Il est maître du Shabbat, il est Dieu, il intervient et il montre que la puissance de l'Éternel repose sur lui. Mais après, quand les gens y venaient, ben les gens devaient faire un acte de foi. Croire qu'il était le Messie, croire qu'il était envoyé par l'Éternel, croire qu'il était l'Éternel. Maintenant, on va voir le point de vue d'un autre évangéliste, c'est Luc. Luc, il voit dans le Shabbat un grand jubilé. Luc accentue le sens du Shabbat comme jour de libération. Il situe le commencement de la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth, où il s'identifie au messager mystérieux du livre d'Ésaïe, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Ce qu'on peut lire dans Ésaïe 61, 1, 2. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, proclamer une année de faveur du Seigneur. Dans cette prophétie, la libération des derniers temps est annoncée avec les expressions de l'année du jubilé, qui est la grande année sabbatique tous les 50 ans, au cours d'une année de jachère où la terre elle-même fait Shabbat. Le Seigneur demande à son peuple de remettre les dettes à son prochain, de libérer les esclaves et de permettre le retour de chacun dans sa propriété. C'est ce qu'on peut lire dans Lévitique 25. Pour le prophète Ésaïe, la fin des temps sera comme un grand jubilé où le Seigneur lui-même viendra remettre les dettes, c'est-à-dire les péchés. Il apportera la libération définitive par rapport à l'adversaire et au péché et conduira les hommes vers le vrai repos. L'épisode de la guérison de la femme courbée illustre bien comment Jésus réalise le discours-programme du grand jubilé final. Au chef de la synagogue qui reproche aux malades de venir se faire guérir le jour du Shabbat, Jésus rappelle la signification originelle du Shabbat comme jour de libération. Il y a une femme qui était malade, qui était pliée en deux, qui n'arrivait plus à se redresser. Jésus la guérit. Le chef de la synagogue est scandalisé. Et puis alors, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus pose cette question. Cette fille d'Abraham, que Satan a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de son lien le jour du Shabbat ? De même, la parabole du fils prodigue peut être lue dans cette perspective. Le fils perdu est accueilli par le Père. Il est pardonné. Il reçoit des sandales aux pieds, signe qu'il est devenu un homme libre. Le Père lui remet l'anneau, le sceau par lequel il est réintroduit dans ses biens. Le Père fait tuer le veau gras pour le repas de fête, le festin des noces messianiques. Et enfin, le climat de joie qui traverse toute la parabole rappelle Ésaïe 58, 13, où le Shabbat est un temps de réjouissance, de délices et de gloire. Je rappelle ce que dit la loi par rapport au jubilé. Qu'est-ce que c'est un grand jubilé ? Le grand jubilé, le Seigneur le présente comme ça dans Lévitique 25, et dit ceci. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produisent d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. » On se rend compte qu'il y a un Shabbat qui est plus important que tous les autres. C'est-à-dire, il y a des cycles de 7 ans, et quand il y a 7 fois 7 ans, ça fait 49, la 50e année On rentre alors dans un grand jubilé. C'est-à-dire que toutes les dettes sont remises. Les gens qui s'étaient vendus comme esclaves, qui s'étaient vendus comme parce qu'ils étaient criblés de dettes ou bien qu'ils ont eu un problème dans leur existence, eh bien, ce jour-là, eh bien, leur dette était remise. Et ce jour-là, même s'ils avaient vendu une terre, ils retournaient sur leur terre. Parce que l'Éternel ne voulait pas que ses enfants soient privés de leur héritage. Parce que c'est Dieu qui a donné la terre d'Israël. C'est Dieu qui a conduit le peuple sur la terre d'Israël. Et il ne voulait pas qu'un de ses enfants soit privé de son héritage. Donc il avait prévu que tous les 50 ans, c'est-à-dire 7 fois 7, la 50e année, il y aurait un grand Shabbat, où tout le monde se reposerait, même la terre se reposerait. La terre d'Israël elle-même sera en repos. Les gens sont libérés. On entre dans le repos de l'Éternel, c'est une année, pardon, c'est une année de réhabilitation, c'est une année où les gens sont libérés, c'est une année où chacun retrouve son statut, où chacun se retrouve son statut d'homme libre, où il peut de nouveau servir l'Éternel complètement, où il n'est plus attaché au service de quelqu'un. Car vraiment, l'idée du Shabbat, c'est que c'est un jour qui, par excellence, c'est un jour de libération. Dans Deutéronome 5, 12, on peut donc lire ça, c'est extrait du décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements. Dans le quatrième de ces commandements, le Seigneur nous dit ceci. « Observe le jour de repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. On se rend compte ici que l'Éternel, dans sa loi, cette loi qui avait été donnée sur le mont Sinaï à Moïse, eh bien, le Seigneur explique de manière très claire qu'il associe le Shabbat avec la notion de libération. Dans ce passage, le Seigneur explique ce que représente pour lui le jour du Shabbat. Il termine par cette phrase, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Pour bien comprendre la signification de cela, il faut rentrer un peu dans le sens des mots en hébreu. En hébreu, Égypte se dit Mitzraïm. Et ce mot veut aussi dire les angoisses. Donc on pourrait traduire ça aussi comme ça. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays des angoisses. L'Égypte, c'est l'image du monde qui est gouverné par des idoles, qui est gouverné par des dieux étrangers, qui est gouverné par Pharaon, qui est lui-même un dieu. Et Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, il a libéré son peuple de l'oppression, de l'esclavage de ces dieux étrangers. Il est lui le Dieu unique qui leur a apporté la libération de l'Égypte. Il leur a donné le repos. L'image du Shabbat, c'est aussi l'image de cette libération. Si vous rentrez dans mon repos, eh bien vous m'appartenez, vous êtes mon peuple, vous êtes à moi, vous faites un avec moi. Et les autres dominations, les autres dieux, toutes les puissances n'ont aucune autorité sur vous. Moi, je vous ai libéré de cette puissance. Vous m'appartenez, vous êtes mon peuple. Le Shabbat, c'est aussi ça. C'est l'idée de la libération. On avait aussi vu dans les fêtes de l'Éternel que pour la Pâque, on pouvait aussi l'assimiler à une naissance. Donc, on peut dire que l'épouse Israël, la fille de Sion, est sortie d'Égypte, est née de l'Égypte, comme si l'Égypte était une mère porteuse. Et l'Éternel l'a tiré, l'a extirpé de cela, l'a pris pour lui. Désormais, la fille de Sion appartient à l'Éternel. En entrant dans son Shabbat, dans son jour, dans le jour de l'Éternel, qui lui appartient dans son jour de repos, eh bien, l'épouse est tirée des nations pour être menée à l'état, vers l'éternel. Le Shabbat, c'est le jour aussi de l'union. C'est la libération. C'est désormais, vous rentrez à la maison, vous rentrez vers le Seigneur, vous venez vers le Seigneur. On se rend compte que si on étudie la loi, si on étudie le décalogue, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 10 commandements, en fait, ce n'est pas 10 commandements où le Seigneur il dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. C'est décalogue, c'est décalogoi, c'est 10 propos, c'est 10 recommandations que le Seigneur y fait. Ce n'est pas proprement parler 10 lois qui sont gravées sur une table, qui sont gravées sur des tables de pierre. Ce sont des versets, ce sont des propos que l'Éternel tient, et puis dans ces 10 tirades que le Seigneur y fait, mais il exprime la profondeur de sa pensée. Il exprime sa manière de voir les relations entre Dieu et les hommes entre eux. La première partie du décalogue définit les relations qu'il peut y avoir entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire, ça commence par « tu aimeras ton Dieu, tu n'en adoreras pas d'autre ». Et puis, là, dans la deuxième partie du décalogue, eh ben, ça commence par « tu respecteras ton père, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ». Ça, ce sont des relations qui sont des relations horizontales, c'est-à-dire entre les personnes. Mais il y a un joint entre les deux choses. Il y a un trait d'union entre les lois que l'Éternel instaure, qui définissent les règles de relations entre Dieu et les hommes entre eux, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le 4e point qui est traité dans le décalogue. Et tout s'articule autour de ça. Le Shabbat, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier dans le décalogue. C'est un moment, c'est l'expression même de la volonté de Dieu. Il dit, voilà ce que je suis pour vous, voilà ce que vous êtes vous, mais dans le Shabbat, je vais vous expliquer ce que j'attends. Dans le Shabbat, la profondeur de ma pensée est révélée. C'est ce qu'on va voir maintenant. La loi qui est donnée à Moïse et qui a été gravée sur des tables de pierre, qu'on appelle le décalogue, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Si on le lit comme ça superficiellement, et puis qu'on l'applique à la lettre, on passe à côté de tout. C'est pour ça que quand Jésus est venu et puis qu'il a été confronté aux pharisiens, le courant ne passait pas, il ne se comprenait pas. Parce que les uns ont lu les choses superficiellement dans la loi, alors que Jésus les a exprimées dans sa personne. Mais il ne les a pas exprimées selon le sens commun qu'on en a quand on lit le décalogue, mais selon la compréhension, selon la révélation que lui en a fait Dieu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va rentrer dans la profondeur des choses et voir un petit peu ce qu'attend le Seigneur, ce qui est caché derrière tous ces versets, derrière toutes ces lois qui sont dans l'Ancien Testament. Parce que notre manière de voir le Shabbat, nous, les chrétiens, l'enseignement qu'on en fait, et la manière de voir des Israéliens est totalement et complètement différente. Et la manière de voir des Israéliens est beaucoup plus profonde parce que ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur enseignement. Pour eux, c'est quelque chose de vraiment très important. Et ils l'ont vraiment extrêmement à cœur. Donc le sens qu'ils donnent au Shabbat est un sens beaucoup plus profond que ce que nous, on peut en avoir. Et surtout, de ce qui est enseigné dans les églises chrétiennes. Parce que le Shabbat, qui n'est que l'un des 10 commandements, que l'un des 10 propos que le Seigneur profère, il est accueilli par Israël, non comme une restriction à la liberté de l'homme, mais comme le temps d'une récompense ardemment attendue, comme le temps du rassemblement des jeunes et des vieux, comme le temps de la fête. La liturgie synagogale du vendredi soir, après le chant de plusieurs psaumes, accueillait ainsi le Shabbat comme on accueille la fiancée. Les rabbins du Safed, au VIe siècle, se rendaient en vêtements blancs dans la campagne pour accueillir par des hymnes la fiancée Shabbat. Le refrain de l'un de ces chants disait « Accueillons Shabbat, ô mon bien-aimé. Allons au-devant de la fiancée. Tout le décalogue est ainsi donné par Dieu et reçu par Israël dans ce climat de joie, de liberté, de vie. Dieu ne nous donne aucun commandement qui ne soit précédé du rappel de notre liberté d'homme, de notre libération. La loi n'est rien d'autre pour nous qu'évangile, bonne nouvelle, chemin de liberté. Pour les Juifs, Shabbat, c'était vraiment un jour de fête. C'était un jour de communion. Je trouve ça admirable, cette manière qu'ils ont de voir les choses, parce que ça reflète exactement le sentiment que j'en ai. C'est le jour du Shabbat, l'épouse va vers l'époux. Comme Jésus est venu vers le peuple, l'époux est venu vers l'épouse. Ah ben, c'est ça la vérité, c'est ça la volonté de Dieu. Nous avons un Dieu d'amour qui attend qu'on lui rende cet amour. Et le jour par excellence pour arriver à cette communion, c'est le jour du Shabbat. Pour bien pénétrer cette notion, on va étudier un petit peu le sens des mots. Parce que Dieu, l'Éternel, joue beaucoup avec les doubles sens, les rimes. Pour bien le comprendre, il faut être pénétré du texte dans son original, c'est-à-dire en hébreu. Et là, il y a des subtilités qui ressortent, et par ces subtilités, on peut comprendre le sens de la pensée de Dieu. Dans Exode 20, verset 8, il y a marqué ça. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Dans « souviens-toi », si on le traduit, c'est « tsakor ». C'est un impératif au mot de « kwal » de « tsakar » qui signifie « penser »,« se souvenir de ». Mais on pourrait aussi le confondre, parce qu'en hébreu, on n'écrit pas les voyelles, on n'écrit que les consonnes, et c'est à nous, selon l'interprétation du texte, de décider ce qu'on va mettre comme voyelle. Et selon qu'on a une voyelle ou une autre, le sens du mot peut changer. Mais là, dans ce contexte, si on change les voyelles, on peut changer le mot. Et on pourrait le confondre alors avec le substantif tsakar, qui signifie mâle, sexe masculin, ce qui donnerait. Mâle est le Shabbat, et toi, Israël, l'épouse, est sanctifiée dans ce jour. Je rappelle, la phrase est prononcée la première fois, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Si on change le sens du mot, on pourrait dire l'époux, le Messie, le mâle, est le Shabbat, c'est qui est le jour du repos, pour le sanctifier. Et l'épouse est sanctifiée dans ce jour. Pour comprendre la profondeur de cette subtilité, sa justesse et la manière dont l'Éternel voit les choses, on peut se reporter à la création. Tout au début, quand l'Éternel crée toute chose, il définit les grandes lignes, il définit les grandes règles de ce que sera l'humanité et de son fonctionnement. Et on peut lire que quand l'Éternel crée l'homme, dans la Genèse, il présente les choses comme ça. C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu créa l'homme, Ha Adam, l'homme. Traduit en hébreu, c'est Ha Adam. À son image, il le crée. Il le crée à l'image de Dieu. Il créa l'homme, et là le mot il change, Tsakar, et la femme, Makeva. Là, on retrouve de nouveau ce double sens qu'on peut avoir dans le mot, entre le souviens-toi du jour du repos, Tsakor, et l'homme, le mâle, Tsakar, eh ben, on se rend compte que Jésus, quand il s'identifiait au jour du Shabbat, en fait, était imprégné dans sa pensée, était inspiré par l'Esprit Saint, par cette notion-là. Cette notion qui apparaît déjà dans la Genèse, c'est-à-dire Dieu crée l'homme, mais un homme à son image, un homme qui est le reflet de Dieu. Or, quel est l'homme qui, par excellence, est le reflet de Dieu? Ben, c'est le Messie, c'est Jésus, c'est ce Jésus qui disait qu'il était le maître du Shabbat. Donc, on se rend compte que dans la création, quand le sixième jour, Dieu crée l'homme, l'homme à son image, il a déjà dans l'idée de l'amener progressivement dans son repos, de l'amener dans son jour, dans sa lumière, dans son Shabbat. L'homme à son image a pour destinée d'entrer dans le Shabbat. Jésus est donc ce Messie, Jésus, est ce Tsakar qui nous amène, cet homme qui nous amène maintenant progressivement sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière, sur le chemin du Shabbat, chemin de l'union où nous pouvons nous rencontrer. L'homme et la femme qui ont été créés par Dieu ont un destin qui les lie, un destin qui les unit, et ce destin est de se retrouver dans le jour du Seigneur. Dans Genèse, le texte continue comme ça, « Il créa l'homme ». Tsakar, pas Adam, parce que Adam c'est une notion poussière comme ça, de le glaibeux, si on le traduit en, si on veut le traduire en français. Mais là il est dit, il créa l'homme, Tsakar, le mâle, et la femme, Makeva, il les bénit et les appela du nom d'homme, Ha Adam, lorsqu'ils furent créés. C'est-à-dire quand Dieu crée, il définit des grandes règles. Il donne des noms et il donne des sens. Quand on traduit en français, si je lis la phrase en français, comme c'est traduit par Louis II, c'est « Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. » Alors qu'en hébreu, c'est pas du tout comme ça. C'est « Il créa l'homme, Zakar, le mâle, avec toute sa signification, tout ce que ça peut représenter derrière, et la femme, Makeva, et les appela du nom d'homme, Ha-Adam, l'humanité, les glaibeux, les poussiéreux. » Mais ils ont un sens plus général. Le sens du mot « Zakar », ça veut dire le pointu. C'est l'image la plus basique qu'on peut avoir de l'homme, de son sexe, ce qui est son rôle de masculin, et dans sa racine primaire, dans son sens premier, quand l'Éternel s'adresse à la femme et qu'il la nomme, et qu'il dit « Makeva », c'est, on peut le traduire par femme, mais le sens premier, c'est la trouée. Donc on se rend compte que le pointu et le troué sont faits pour être ensemble. Et cette image, nous la retrouvons dans le symbole d'Israël, avec les deux triangles, un qui va vers le haut, et puis un qui va vers le bas. Nous avons donc cette notion d'ouverture, et puis de pénétration dans les formes et dans les symboles. Le Seigneur parle par son verbe, mais il parle aussi dans ses symboles. Quand vous regardez la croix de David, vous avez l'impression que c'est une étoile, mais en fait, c'est pas une étoile. Ce sont deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et ça, ça donne l'image de l'union, ça donne l'image d'un couple qui est ensemble pour ne former qu'un seul corps. C'est l'image de Dieu et de son peuple, de Christ et de son épouse. Et ça, cette notion ressort déjà dans la Genèse. Quand on analyse le texte, quand on cherche dans sa profondeur, on se rend compte que déjà cette idée de profondeur, cette idée de base est jetée dans la parole de Dieu. Et ceci s'exprime après dans la loi et plus tard avec Jésus-Christ qui sera l'expression de cette loi. C'est des notions dont il faut bien s'imprégner. C'est pas facile à comprendre, mais quand on analyse les choses dans la profondeur, on se rend compte que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Jésus-Christ est l'expression de la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour la vivre dans sa personne. Il est le Verbe fait chair. C'est une notion qui est extrêmement importante, parce que chez les chrétiens, on a beaucoup trop tendance à écarter d'un revers de main l'Ancien Testament. On le lit, mais on le lit superficiellement. On ne cherche pas la profondeur des choses, on ne cherche pas à s'en pénétrer. Parce qu'on se dit, ouais, ce sont d'anciens rites, aujourd'hui on ne s'occupe plus de ça, ça c'était avant, maintenant on n'est plus soumis à la loi. Et puis, mais ce faisant, si on ne se pénètre pas de la loi de l'Éternel, si on ne rentre pas dans la profondeur du Verbe, si on ne l'analyse pas, et si on ne demande pas au Seigneur de nous révéler la profondeur de sa pensée, et la profondeur de sa pensée ne se révèle que dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est l'expression de cette pensée qui est révélée dans l'Ancien Testament. Et si on regarde qu'une partie du livre, c'est-à-dire le Nouveau Testament, eh ben, il y a une grande partie de la pensée de l'Éternel qui nous échappe. Et beaucoup de choses, eh ben, on va passer à côté. Aujourd'hui, si on est arrivé à cette absurdité que les chrétiens ont délaissé le Shabbat, c'est justement parce qu'ils sont imprégnés de cette notion de vérité qui s'exprime dans l'Ancien Testament, choses qui sont très importantes. On a délaissé la loi pour aller vers la grâce, et du coup on s'est fait avoir. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font tout et n'importe quoi, plein d'églises prient pour un réveil, le réveil n'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais il y a un décalage total et complet entre l'Éternel et son peuple. Un peuple qui fait ce qu'il a envie, et l'Éternel qui attend qu'il le suive. Mais on ne parle plus le même langage, on n'est plus animé du même esprit. Pour comprendre ce que veut le Seigneur, il faut déjà l'écouter. Et pour l'écouter, il faut suivre sa parole. Et sa parole nous enseigne, nous entraîne dans les profondeurs. Sa parole nous est révélée pour peu qu'on suive le Seigneur. On a vu dans le décalogue est décrit deux fois. On va le retrouver une fois dans Deutéronome et on va le retrouver une fois dans l'Exode. Les deux fois, le Seigneur va donc décrire ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles d'enseignement qu'il nous transmet. Par contre, dans les deux textes, Deutéronome et Exode, il va y avoir une petite différence au niveau du Shabbat. On a vu que la première fois, dans le Deutéronome, quand il parle du Shabbat, le Seigneur l'assimile à une libération du peuple, l'assimile à la libération de l'Égypte. Souviens-toi du Shabbat, sanctifie-le en souvenir de ta libération de l'Égypte. Dans Exode, quand il parle du Shabbat, le Seigneur s'exprime ainsi. Dans Exode 28, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ta servante, ton bétail, l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans ce passage, le Seigneur se réfère à la création. Dans ce passage, le Seigneur nous projette dans la Genèse. Il nous dit, rappelle-toi du jour du Shabbat. Rappelle-toi que c'est un jour qui doit être sanctifié, parce que le monde a été créé en 6 jours, et le 7e est un jour de repos. Pourquoi le Seigneur dit ça? On comprend beaucoup mieux ce passage-là, si on le rapporte à ce qu'on a dit avant, et qu'on regarde ce que le Seigneur a fait dans sa création. Et là, on se rend compte que le 6e jour de la création est le jour de la création de l'homme. C'est là qu'on retombe de nouveau dans ce passage que je vous ai lu avant. Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes donc là dans une notion nouvelle où le Seigneur recherche quelque chose. Le Seigneur cherche à nous enseigner quelque chose. On a vu qu'il y a l'image de l'union, qu'il y a l'image du mariage. Et est-ce que cette image est réelle? Est-ce que cette image est vraie? Est-ce que c'est vraiment là la pensée profonde du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ça la signification du Shabbat? Parce que quelque part, on pourrait se dire, c'est une interprétation qui en vaut une autre, mais on pourrait très bien attribuer un autre sens à ces choses-là. Et bien là encore, la parole de Dieu vient à notre secours, et puis nous montre que c'est vraiment ça la signification. Le Shabbat est le jour que le Seigneur nous a donné pour nous retrouver dans l'union avec lui, pour faire corps avec lui, pour faire un avec lui. La connexion Shabbat et Israël a une profonde signification, car il y a une pensée cachée, une sorte de code secret. Dès la création, la Genèse montre dans les textes hébreux, concernant le 7e jour, un code secret. Étonnant que nous allons découvrir. C'est pour ça que j'ai pris la Bible en hébreu, pour bien faire la démonstration de ce que je vais maintenant vous expliquer. Dans l'exposé de la création, le Seigneur nous dit que le 6e jour est créé l'homme et que le 7e jour, on rentre dans le Shabbat. Dès la fin du chapitre 1, il est dit « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. » Et après ça, continue le chapitre 2, qui se poursuit ainsi. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. » Quand on lit ces choses-là, on se dit qu'apparemment, il sort que ce verset n'est rien de spécial. C'est tout à fait anodin. C'est la création, 6e jour l'homme, 7e jour Shabbat. Mais si on regarde un peu de plus près, et puis qu'on lit le texte en hébreu, on découvre un message étonnant. En prenant la dernière lettre du chapitre 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le yod. Donc, c'est-à-dire, quand on est dans le dernier mot du 6e jour, qui est le jour de la création de l'homme, trouve une lettre. Et cette lettre, c'est le yod, qu'on peut traduire par le i en français. Si on parle de cette lettre, et qu'on continue, et qu'on compte chaque fois cette lettre, je vais vous faire la démonstration, ça va être beaucoup plus simple, le i, nous avons un yod. À partir de là, je vais commencer à lire chaque fois cette lettre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. La 7e lettre est un S. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e lettre est un R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e lettre est un A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième lettre est un L. On se rend donc compte que si on assemble ça, il y a un mot qui apparaît. Quand on sort du sixième jour et qu'on rentre dans le septième jour, par des cycles de sept lettres, il y a le mot Israël qui apparaît. Il y a une signification là-dedans, une signification tout à fait particulière. Le Seigneur va nous donner un message. Le peuple de Dieu, Israël, sa création, son épouse, est destiné à rentrer, à venir dans le Shabbat. Si on continue après le mot Israël, et puis qu'on continue par des séquences de sept lettres, il y a un nouveau mot qui apparaît, qu'on pourrait traduire par « mamash ». C'est un mot difficile à traduire, et il faut avoir un sens profond du verbe en hébreu pour pouvoir saisir la signification de ce mot-là. Ce que signifie Israël, nous le savons, mais qu'est-ce que signifient les lettres « mamash » ? D'après certains dictionnaires, la signification serait « réalité sur un fait ». Concernant un fait. Alors, il y a des personnes qui ont demandé à des professeurs d'hébreu, et ces professeurs d'hébreu ont répondu que cela signifie « cela et rien d'autre ». Quelle révélation ! Au septième jour, Dieu a pensé à Israël. Il a pensé à Israël, à cela et à rien d'autre. Dieu s'est reposé le septième jour, et il a projeté Israël durant son repos. On pourrait l'exprimer ainsi. Dieu s'est reposé en pensant à Israël. Et Israël doit se reposer en pensant à Dieu. Puisqu'il est dit qu'il serait un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On comprend alors combien les éléments du triangle Dieu, Israël, Shabbat s'adaptent tellement intimement. Exode 31, 13 à 17, il est dit ceci. Le Shabbat est un signe et une alliance entre les enfants d'Israël et Dieu, puisque Dieu pense tellement intensivement à Israël, Israël le Shabbat. Il veut qu'Israël aussi pense à lui ce jour-là. Est-ce que cela ne concerne pas aussi les chrétiens qui ont été greffés sur l'olivier vrai ? Nous rendons compte ici, nous avons quelque chose de tout à fait particulier. Le Seigneur veut qu'on entre dans son Shabbat. Mais il veut qu'on entre avec un cœur bien disposé, avec une pensée orientée vers lui. C'est une histoire d'amour, nous sommes ici dans les sentiments. Le Seigneur pense à son épouse. Le Seigneur a toute son intention qui est concentrée sur son épouse. Il est dans son jour, le jour qui lui appartient, qui est son jour. Et il attend que son épouse qu'il a créée, que son épouse qu'il a formée, eh bien, vienne et rentre dans son jour, dans un sens beaucoup plus large. Si on prend au niveau de la création, on se rend compte que depuis que Adam a été créé, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 6000 ans. Au début, pendant 2000 ans, c'était le temps des patriarches, pendant 2000 ans, ça a été le temps d'Israël, et pendant 2000 ans, ça a été le temps des nations. Eh bien, ces 6000 ans peuvent être assimilés à 6 jours. 6 jours de création où l'épouse est formée et l'éternel est dans le septième jour, et il attend, et il a sa pensée concentrée sur son épouse, et il attend que son épouse vienne vers lui, que cette épouse se forme au cours des siècles, qu'elle se forme en Israël, qu'elle se forme dans les nations, qu'elle prenne corps, et que son esprit repose sur ce corps, et qu'une fois que ce corps est formé, bien que cette épouse mystique, que cette épouse vienne vers lui, et le Seigneur l'attend dans le septième jour. Dans son repos, dans son Shabbat. Quand le moment du Shabbat apparaît, quand le moment du Shabbat est venu, quand le septième jour est proclamé par l'Éternel, eh bien le Messie vient vers l'épouse et l'épouse va vers le Messie. C'est le moment de l'union, c'est le moment où les deux se rencontrent. De la Genèse jusque dans l'Apocalypse, eh bien on se rend compte qu'il y a une idée directrice, qu'il y a un plan de l'Éternel, qu'il y a une volonté, qu'il y a une seule pensée, du début du livre jusqu'à la fin du livre, que ce soit au moment de la création de l'homme, que ce soit au moment où l'Éternel donne sa loi, que ce soit au moment où le Seigneur monte sur la montagne et qui s'identifie à la parole de la prophétie. Jusque dans l'Apocalypse, où on sait que Jésus-Christ va venir sur terre pour y régner et rentrer dans le Shabbat de l'Éternel, on se rend compte que tout ça fait partie d'un même plan, d'une même pensée, que l'Éternel a voulu toutes ces choses-là, que c'est son désir le plus profond, Et que le message que le Seigneur nous envoie, c'est le Shabbat, c'est le jour où l'épouse peut rencontrer l'époux. C'est ça que vous devez conserver, c'est ça que vous devez vous rappeler, c'est pour ça que ce jour est tellement particulier et tellement important. Si vous rentrez dans le Shabbat en ayant ceci à cœur, si vous rentrez dans le Shabbat en vous considérant comme étant l'épouse de Christ, comme étant l'épouse sanctifiée, eh ben, à partir de ce moment-là, vous êtes agréé par Dieu, vous lui êtes agréable, et vous répondez à son attente. Et ce jour-là deviendra alors un jour de joie, un jour de festivité. Bien, Seigneur Jésus, tu vois, comme j'ai apporté ces paroles maintenant, mon Dieu, c'est toujours imparfait. Il manque toujours quelque chose. Il y a toujours des choses à compléter. Mais ton esprit est là. Tu es présent au milieu de nous. Et nos imperfections, nos manquements, eh bien, tu les combles. Tu les parfais. Derrière, ton esprit va passer et puis nous apporter tout ce qui nous manque. Ô Jésus, puisses-tu maintenant nous accompagner dans ton amour, dans ce jour qui est le tien, dans ce jour de Shabbat. Au nom de Yeshua, Amen.